Bonjour.
Bientôt c'est Rosh Hashanah. Bientôt c'est Kippour. Bientôt sont les fêtes des Sukkot. Ce sont des jours qui sont très grands, très hauts, très puissants. Des jours très puissants, très chargés. Le jour de Kippour, tous les Juifs sont à la synagogue. Alors, pendant l'après-midi, on est un peu fatigué peut-être déjà l'après-midi. Il y a une lecture de la Torah, comme le matin. Et après la lecture de la Torah, il y a une haftarah. Ça veut dire un passage du prophète, des livres des prophètes qu'on raconte et qui concerne un message fondamental à prendre pour le jour de Kippour, à prendre pour toute l'année. Mais comme le jour de Kippour, on est proche d'Hachem, c'est le bon moment d'entendre des paroles qui nous guident, des paroles qui nous réveillent, des paroles qui nous éclairent pour toute l'année. Alors donc, je vais raconter ce qu'on va lire, donc la Haftarah de Kippour l'après-midi. Après, je vais le commenter. D'abord, je vais raconter l'histoire. Après, je vais commenter et d'essayer d'actualiser parce que chaque parole que le prophète a dit il y a 3000 ans en arrière, tout ça, ce sont des messages qui nous concernent chacun personnellement. Alors, de quoi il s'agit? Donc, il y a un prophète qui s'appelle Yona. Voilà son nom, Yona. Il habite où? Il habite à Yerushalayim, la ville des prophètes, la ville des sages, Kimitzion, Teitzetora, Dvar Hashem Yerushalayim, le Bet Amigdash était à Yerushalayim. Donc, il y avait en Eretz Israël des prophètes. Entre autres, un prophète qui s'appelle Yona, qui était l'élève d'un autre prophète connu dans la Tanakh qui s'appelle Elisha Hanavi. Elisha Navi lui-même, il est l'élève d'un prophète qui s'appelle Eliyahu Navi, bien connu. Eliyahu Navi, il est l'élève d'un autre prophète, Achéa Siloni. Bon, alors ce prophète, Yona, il raconte une histoire qui lui est arrivée, une histoire extraordinaire, qui sort de l'ordinaire, cette histoire. Probablement vous la connaissez. Et peut-être pas tout le monde connaît, donc je voudrais quand même raconter en gros le contour de l'histoire afin de mieux saisir après l'enseignement qu'on peut tirer. Donc Yona est prophète, qui dit prophète, dit la crème de la crème de la société, dit l'être humain qui a réussi à se rehausser au plus haut degré, à tel point qu'il est en contact direct avec Hachem. Ça, c'est pas seulement un simple sage, un grand sage, un homme saint, un homme extraordinaire, plus, jusqu'à devenir prophète. Plus que prophète, ça n'existe pas. Au-dessus de prophète, se trouve Dieu. Donc cet homme extraordinaire, Yona, qui est un chacham, qui est le chef du tribunal rabbinique, évidemment, et qui est prêcheur, et qui réveille le peuple, qui parle au peuple juif, qui reçoit des messages à transmettre au peuple juif. Ce jour, ce prophète, un jour, reçoit un message, je ne sais pas, SMS ou par email, par téléphone. Je ne sais pas comment Kadosh Baruch Hu communique avec le prophète, je ne suis pas, donc je ne sais pas comment il reçoit, mais en tout cas, Dieu lui apparu d'une façon claire. Toi, Yona, tu te lèves maintenant de Jérusalem, et tu vas faire un voyage. Tu vas partir où? Tu vas partir en Irak. Vous connaissez l'Irak? Et au nord de l'Irak, il y a une ville qui s'appelle Ninive, elle existe encore aujourd'hui, elle n'a pas bougé depuis. Elle n'est pas loin d'une autre ville qui s'appelle Mossoul, qu'on parle aujourd'hui beaucoup dans les Mossoul, au nord de l'Irak. Donc il y a une ville, Ninive, qui est une vieille ville qui existait déjà dans le Chumash, dans Parshat Noach, Ashur. Cette ville, C'est une grande ville, une capitale au Proche-Orient. Il y avait plus que 120 000 personnes qui habitaient dedans. Tu vas partir dans cette ville et tu vas adresser la parole de Dieu aux gens dans cette ville qui ne sont pas des juifs, qui sont des non-juifs. Et tu vas leur dire, vous ne vous comportez pas bien. Monsieur, dame, vous ne vous comportez pas bien, ça ne plaît pas à Dieu. Il y a trop de voleurs, trop de magouilles dans cette ville. Alors Dieu, il a décidé, ou vous vous repentez, ou Dieu va détruire la ville. Dans 40 jours, la ville est détruite si vous ne vous repentez pas. Voilà, tu vas dire ces paroles à ces non-juifs au nord de l'Irak. Non. Yonah recevra cette mission. Il dit non. Non et non. Je ne fais pas cette mission. Je refuse cette mission. Dieu lui dit, tu fais cette mission. Et lui, il s'est dit, non, je ne la fais pas. Non, 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 non. Je ne le fais pas. Et après, Dieu, il va me sûrement donner encore une deuxième mission plus détaillée, comment gérer cette affaire-là. Moi, je ne veux pas faire cette mission, mais je ne veux plus que Dieu me parle. Si Dieu me parle, il va me donner encore plus d'instructions dans ce sens-là que je refuse. Il faut que je coupe avec Dieu. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti de Yerushalayim à Yafo. Vous connaissez Tel Aviv Yafo? Il y avait le port. Et il dit, je vais fuir, je vais faire une croisière sur la Méditerranée, parce que parler avec Dieu, il faut être en Eretz Israël. Quand on est aux vacances en Grèce, Dieu ne parle pas avec les Grecs. Alors en Chutzlaret, Dieu ne parle pas avec les prophètes, après qu'ils ont entré en Eretz Israël. Je vais fuir, comme ça Dieu ne me parle plus. Il cherche un bateau, il trouve un bateau qui part dans un pays Tarshish, je ne sais pas où, la Tunisie ou la Turquie, je ne sais pas où. Alors, il rentre, il dit, voilà, je vous achète un billet, mais pas de problème, monsieur. Alors, partez, ça y est, je suis très pressé. Il dit, monsieur, il y a encore plein de places qui ne sont pas vendues, on va tout vendre, on va partir. Il dit, moi, je n'ai pas le temps. Combien de places il manque? Combien de passagers? Quoi, je ne sais pas, 40, 45 passagers, je vous paye tout. Bon, alors, je paye pour les autres. Monsieur le capitaine, levez l'ancre et partez. Bon, le type, il paye, c'est bon. Il paye le reste des places et le capitaine, il part. Et Yonah, ça y est, il est sur le bateau. Ouf, ça y est, Dieu ne va plus me parler. Oubliez l'histoire. Il ne s'agit pas d'un petit juif comme ça, un petit voyou qui veut fuir Dieu. Il s'agit du top, du plus grand racham, du plus grand tzaddik de la génération. Lui, il fuit devant Dieu. Il ne veut pas faire la mission que Dieu lui confie. Alors, il est dans ce bateau, qu'est-ce qu'il se passe? Une tempête se lève. Une tempête se lève et le bateau commence à danser. Le bateau, il danse, oh là là. Le capitaine, il prend tous les marins, on fait quoi? On est trop lourd, on va jeter un peu les valises hors bord, il jette les valises hors bord. Ça fait un peu plus léger, mais quand même. Qu'est-ce qu'il fait notre prophète Yonah? Lui, il est fatigué. Lui, il est fatigué à mort. Quand on fuit Dieu, on devient fatigué. Alors, il descend dans la cale, il alloue un lit, il se met au lit et il dort profondément. En pleine tempête, lui, il dort. Et le capitaine et les marins, ils s'en vont, ils tremblent. C'était des idolâtres, chacun avait son dieu, je ne sais pas, il y avait un chinois qui appelait le dieu des chinois, un angolais, un turc, un je ne sais pas quoi. Chacun appelait son dieu, Dieu sauve-nous. Et la tempête continue. Mais c'est une tempête un peu spéciale, parce qu'ils n'étaient pas seuls dans la Méditerranée, il y avait d'autres bateaux. Ils ont vu plein de bateaux autour, qui étaient tranquilles. La tempête ne chargeait que ce bateau-là. Alors, tout le monde a prié, et le capitaine regarde, il dit, mais il y en a un qui manque ici. Là, le type, là, le Richard, qui nous a payé tous les places, il est où celui-là? Il est où? Ah oui, je l'ai vu descendre en bas. Qu'est-ce qu'il fait en bas? Alors, le capitaine, il descend, et rentre dans la chambre de Yonah. Et voilà, le type, il dort. Alors, le capitaine, il vient, monsieur, monsieur, réveillez-vous. Pourquoi vous dormez? Et Yonah, il a le truc. Monsieur, on est en danger, vous ne sentez pas comment vous dormez là dans cette tempête? Il a bien dormi. Mais réveillez-vous. Vous ne voyez pas, on est en danger. Appelez votre Dieu, vous avez peut-être aussi un Dieu comme tout le monde. Appelez votre Dieu et peut-être il aura pitié de nous. Oh, Dieu, Diona, il s'habille, il monte en haut. Ils sont tous réunis. Alors, le capitaine, il dit, c'est bizarre cette tempête. On ne charge que ce bateau et tous les autres bateaux sont tranquilles. Il y a peut-être un qui est fautif ici. Il y en a un qui a fait un péché. Qui est-ce qui a tué sa grand-mère ici? Personne. Mais qui a fait un coup monté là, qui a brûlé la mairie de sa ville? Personne. Mais il y en a un fautif ici. Qui est le fautif? On va faire un tirage au sort. Alors ils ont marqué tous les papiers sur un papier, on met sur une lune, on va tirer. Et ils ont tiré et c'est tombé sur Yona. C'est tombé sur Yona. Alors le capitaine, il dit, monsieur, et on a fait un tirage au sort, c'est tombé sur vous. C'est vous confirmez que vous avez quoi vous reprocher? Oh là là. Alors Yona, il dit, oui, je confirme. C'est tombé bien. Le tirage, il est tombé bien. C'est moi le fautif. Vous n'avez rien à vous reprocher, c'est moi. Cette tempête, c'est pour moi, je le sais. Ah bon, vous avez fait quoi, monsieur? C'est un vendeur de drogue, un caïd de drogue? Il dit non. Et c'est quoi votre métier, alors? Vous venez d'où? De quelle ville? De quel pays? Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Moi, je viens d'Eretz Israël. Ah, vous êtes accosté à Yafo, je suis un Israélien. Ah bon? Et vous faites partie de quel peuple? Peuple juif. Ah oui, peuple juif, on a entendu parler, oui. Vous êtes juif. Et quel est votre métier? Mon métier, c'est de parler avec Dieu. Quoi? Je suis rabbin à Jérusalem. Il était le plus grand racham des juifs. Et je suis prophète et je parle avec Dieu. Parler avec Dieu. Et qu'est-ce que vous parlez? Eh bien, je parle aux gens. Et vous parlez quoi aux gens? Je dis aux gens d'écouter ce que Dieu dit. Ah bon? Vous êtes proche de Dieu? Ouais. Et alors, il veut quoi, vous, de Dieu? Alors, pourquoi il fait la tempête sur vous? Il dit, parce que je suis un voyou. Vous êtes un voyou ou vous êtes un prophète? Eh bien, j'étais prophète, mais maintenant, je ne veux plus l'être. Dieu m'a donné une mission, je ne veux pas faire cette mission. Et je fuis devant Dieu. Je fuis devant Dieu et je bouche les oreilles et je veux faire ma vie toute seule. Et Dieu ne veut pas. Et voilà la tempête. La tempête m'a attrapé. Ils ont demandé plein de questions. Il leur a expliqué qui c'est le Dieu des Juifs. Il a raconté toute l'histoire juive. Ces marins, ce capitaine, ils écoutent toute l'histoire juive. Mais il est extraordinaire, Moshe Rabbeinu a sorti les Juifs d'Égypte. Ils ont reçu la Torah et les mitzvot, c'est ça le peuple juif. Et lui, c'est le chef du peuple juif. Et il ne veut plus faire la mission que Dieu lui a demandée. Et Dieu ne pardonne pas, il veut le rattraper. Alors on fait quoi maintenant? Ils ont tous tremblé, ils ont vu, l'histoire était vraie, ils n'ont pas devant eux un kidam, c'est pas un simple, ils ont vu. Yerei Shamaïn Tzadi, comment il a parlé. Et ils ont vu ça, comment il reconnaît sa faute. Ils ont dit, monsieur, on fait quoi maintenant? Mais nous sommes en train de se noyer. Il a dit, Yona, et regardez bien. Je ne veux pas que vous mouriez à cause de moi. Moi, je suis le fautif à cause de moi. La solution, vous me prenez, vous me jetez dans la mer. Alors la tempête va s'arrêter. Une fois que moi, je suis dehors, Dieu n'a rien contre vous. Ils ont dit, monsieur, on ne peut pas faire ça. Jeter un homme comme vous dans la mer, on ne peut pas faire des choses comme ça. Il a dit, mais sinon, vous risquez de mourir tous. Ils ont dit, peut-être c'est pas comme ça. Peut-être il se trompe, ce monsieur. Et on tue un homme innocent, on n'a pas le droit. Il craignait de tuer un homme innocent. Il leur a donné tellement beaucoup de démons, il rachamayim, il craignait maintenant Dieu. Alors, ils ont dit, bon, monsieur, on va faire un essai. Ils l'ont accroché avec une corde. Et ils ont dit, on va vous faire descendre tout gentiment dans l'eau. Peut-être ça va se calmer, on ne va pas vous jeter hors bord. Et ils l'ont descendu, et les pieds, ils ont touché l'eau. Les pieds de Yona, ils ont touché l'eau et la tempête se calme. Ça y est, c'est bon, il a eu sa capara. Les mains, les pieds, ils étaient dans l'eau. Alors tout de suite, ils l'ont remonté. Ah, off, on a réussi à calmer la tempête sans jeter ce rabbin-là dans la mer. Il est monté en haut et la tempête continue. Et encore plus fort. Il est dit, je vous ai dit, mais jetez-moi à la mer. On va faire un deuxième essai. Ils l'ont fait descendre. Les pieds, ils ont touché. La tempête continuait. Ils l'ont mis jusqu'à ici dans l'eau. Et enfin, la tempête s'arrêtait. Alors, ils l'ont remonté. Ils l'ont remonté. La tempête continue. Il dit, je vous ai dit, jetez-moi. Ils l'ont fait un deuxième, troisième essai jusqu'à ici. Ah, il est rabbin, il est jusqu'à ici. Il est en train. Et la tempête s'arrête. Ils l'ont remonté. Et la tempête continue. Vous connaissez la musique déjà. Ah, on fait quoi maintenant? Il a dit, jetez-moi définitivement et vous allez être sauvés. Et vous, monsieur, qu'est-ce qui va vous arriver? Il arrivera ce que Dieu voudra. Ce n'est pas votre problème. Moi, je ne veux pas que vous mouriez à cause de moi. Alors, ils ont prié que Dieu leur pardonne si jamais ils se trompent. Et ils l'ont jeté dans l'eau. Et la tempête s'arrêtait. Tranquille et tout. Quand la capitaine... Et les marins, ils ont vu, ils ont dit, ce monsieur, il a dit la vérité. Ils étaient tellement émerveillés, ils ont dit, nous allons tous se convertir au judaïsme. Ils ont fait un vœu, ils ont juré de devenir juifs. Et ils ont accompli le vœu. Ils sont partis en Eretz, ils se sont convertis, et la Gemara nous raconte que tous ces gens-là sont devenus des grands tzadikim. Chacun des marins a fondé une famille des tzadikim. Ils étaient tellement impressionnés, ce Yona, et les a transformés. La fuite de Yona devant Dieu a provoqué que tous ces gens sur le bateau sont devenus des tzadikim. Lui a fui Dieu et il a reconnu sa faute. Quand il a reconnu sa faute, les goïms sont devenus juifs. Voilà la première partie de l'histoire. Et comment on continue l'histoire? Donc lui, il est dans l'eau. Alors qu'est-ce qu'on fait quand on fait dans l'eau? On fait Shema Israël, on fait le vidouille. Et... Alors Dieu, il a nommé une baleine. Et la baleine, il a happé Yona. Dans la baleine, il y a des poumons comme chez les humains, pas comme chez les autres poissons. La baleine, c'est un peu mammifère, un peu comme un homme. Il a un poumon et chaque heure, une baleine reste jamais plusieurs heures sous l'eau. Chaque heure, chaque une heure et demie, il ouvre là, il monte en haut, il prend un bon ballon d'oxygène et il le stocke dans son poumon. Eh bien, il a avalé, il y en a, il s'est installé dans son poumon tranquillement. Respirer bien bon air, il n'y a pas de mauvais odeur là-bas. Et on peut bien respirer. Et la baleine, pendant 3 jours et 3 nuits, il a fait une croisière dans la Méditerranée. Chaque heure, il lève la tête, il prend un bon pour lui et pour Yona aussi. Un peu, on donne au rabbin un peu d'oxygène. Et qu'est-ce qu'il fait Yona? Il est en train de prier. 3 jours et 3 nuits, il prie. Non? Le prophète, il prie 3 jours, 3 nuits. On peut s'imaginer qu'est-ce qu'il a, qu'est-ce qu'il sait qu'on prière. Après les 3 jours, 3 nuits sont finis. Dieu, il a dit, c'est bon. Ça y est, il a eu sa dose. Il a eu sa dose. Alors le poisson, il s'est approché à Eretz Israël devant le port, et ils tous, comme quelqu'un continent, on avale à travers, si vous avez peut-être avalé une noisette à travers dans le poumon, alors on tousse, et de fois ça sort. Alors, il a toussé, hop, et Yona, il est en Eretz Israël, il est de nouveau au bord. Qu'est-ce qu'il fait Yona après ce traumatisme? Il a loué un 4x4, et il est parti en Irak. Il est parti en Irak. Il est parti à Nineveh, à côté de Mossoul. Il rentre dans cette ville et il se met à hurler, à crier. Je suis prophète juif, je viens de Jérusalem, je dois vous transmettre un message. Dans 40 jours, cette ville sera détruite si vous ne vous repentez pas. Et il se met à hurler, tous les gens, ils disent, qui c'est quoi? Qu'est-ce que vous racontez? Et il a raconté. Et les gens de Nineveh, ils connaissaient l'histoire juive. Ils savaient, les prophètes juifs, c'est pas le roi de cette ville, c'est un arrière-arrière-petit-fils de Paro d'Égypte. Après que Paro, il est sorti de la mer, Et Paro, il a vu qu'est-ce que Moshe Rabbeinu lui a fait. Il est parti, c'est lui qui est devenu le roi de Ninevée, après ses enfants, petits-enfants. À Ninevée, on savait quelle histoire. Le roi, il a entendu ça, il a dit, oh là là, un prophète juif nous dit de Moussard, je ne vais pas être un imbécile comme le Paro d'Égypte, faire la sourde oreille, il faut écouter ce qu'il dit. Il a décrété 3 jours et 3 nuits de jeûne. Tous les gens, ils ont rendu ce qu'ils ont volé. Chacun, il a rendu ce qu'il a volé. Les gens, ils ont fait teshuva. Et entre-temps, Yonah, il a dit, je vais voir la fin de cette histoire. Il se met à côté. Et les 40 jours sont finis. Et la ville n'est pas détruite. Les gens, ils ont fait teshuva. Et Yonah a été fâché. Et Yonah n'était pas content. Oh là là, la ville n'est pas détruite. Oh là là. Et il y avait du soleil qui tapait. Alors, ça, il tapait sur Yonah. Alors, quand on est à 45 degrés à Bagdad, c'est pas très bon. Alors, Hachem, il a fait pousser une plante. Un ricin lui a fait de l'ombre. Ah, il se sentait déjà mieux. Après, Hachem, il a demandé un cafard, viens, et tu vas couper avec tes dents là, comment ce ricin, il est alimenté par la terre. Et il a coupé, et le ricin, il a séché. Il n'y avait plus d'ombre, et le soleil continue à taper. Et Yonah, il a dit, bon, je vais mourir, ça y est, ça suffit, je vais mourir. Alors Dieu, Hachem, il parle avec Yonah, il dit, dis-moi Yonah, tu veux mourir, pourquoi? Il dit, je ne peux plus. Il dit, mais et quand la plante était encore là, tu étais content? Ah oui, la plante m'a fait de l'ombre, quel bonheur. Et ça te fait mal au cœur maintenant que cette plante, ça me fait mal au cœur. La plante, elle est morte, et maintenant, moi, je suis ici exposé au soleil. Alors Hachem dit à Yonah, écoute-moi, c'est toi qui as planté ce ricin? Non. Toi, tu l'as arrosé? Non. Tu as investi ta force? Non. Et pourtant, il était utile. Donc, ça te fait mal au cœur que le pauvre ricin, il est mort. Mais cette ville, Ninevée, il y a plus que 120 000 personnes. Mais qui a créé ces gens? C'est moi, Dieu. Qui les nourrit? C'est moi. Et toi, tu aurais préféré que cette ville, elle sera détruite? Mais tu penses que ça me fait pas mal au cœur? Moi, je vais perdre 120 000 humains. Ça me fait mal au cœur. Pour toi, ça fait mal au cœur que la plante meure. Et à moi, ça me fait pas mal au cœur. Tu aurais voulu que cette ville meure. Et l'histoire, elle s'arrête. Voici le livre de Yonah. Évidemment, il faut comprendre toute cette histoire. D'abord, la première des choses qu'il faut comprendre, mais pourquoi Yonah se rebelle contre Dieu? Mais pourquoi il ne voulait pas partir? Il est prophète, c'est un bon juif. Un bon juif, il fait ce que Dieu lui demande. On a un Torah, on applique la Torah. Plus forte raison qu'Hachem, il se adresse personnellement à toi, il te donne une mission. Et il dit, non, je ne veux pas. Pourquoi? Pourquoi il a fui? Alors la Gemara nous donne 2 explications. Une explication, il a dit comme ça. Moi, Yonah, ça fait des années que je prêche aux juifs. Les juifs aussi avaient des pécheurs. Et Dieu, il a dit, vas-y, réveille les juifs. Et Yonah, il vient dans les synagogues et aux places au marché et dans les magasins. Et il prêche, juif, il faut changer, il faut faire des teshuva. Et les juifs, ils mettaient des boules qui dans les oreilles et on n'écoutait pas. Et lui, il parle et ça ne marche pas. Alors Dieu, il a dit, bon, les juifs n'écoutent pas. Tu sais quoi, toi, Yonah? Eh bien, tu vas parler aux non-juifs. Yonah, il entend qu'il a une mission de parler aux non-juifs, il refuse. Ça, je ne fais pas. Pourquoi il ne veut pas parler aux non-juifs? La Gemara nous dit qu'il avait peur. Je vais parler aux non-juifs. Et si Chas et Shalom, ils vont écouter Dieu. Et si Chas et Shalom, c'est Goyim, ils vont devenir des gens bien. Et alors, tant mieux. Oui, tant mieux pour ces gens-là. Mais ce n'est pas bon pour les juifs. Mais qu'est-ce que Dieu il va dire au ciel? Mais qu'est-ce que les anges ils vont dire au ciel? Ils vont dire, le prophète parle aux juifs, ils n'écoutent pas. Et il parle aux non-juifs, ils écoutent lui. Ils vont dire, oh là là, il y a des non-juifs qui sont mieux que les juifs. Moi, je ne veux pas provoquer ça aux juifs. Je ne veux pas qu'on dise au ciel que les goïms sont mieux que les juifs. Je ne peux pas. Je ne peux pas supporter ça. Eh bien, que les goïms restent aussi des voyous. Qu'on parle pas mal des juifs. Je ne veux pas qu'ils rendent Betchouba. Moi, je ne fais pas cette mission. Il refuse la mission parce qu'il aimait trop les juifs. Il ne voulait pas qu'on parle mal d'eux. Ça, c'est une raison. Et une deuxième raison. Yonah, il a dit comme ça. Si je vais aller là-bas, en Irak, je vais dire au Goyim, dans 40 jours, la ville sera détruite si vous ne faites pas Teshuvah. Bon. Peut-être ils ne vont pas faire Teshuvah, peut-être oui. S'ils ne vont pas faire Teshuvah, la ville sera détruite. Et s'ils vont y faire Teshuvah, eh bien, la ville ne sera pas détruite. Mais qu'est-ce qu'ils vont penser après de moi? Que je suis un clown? Ils vont rendre l'argent volé et rien n'arrive et tout est bien. On va dire, mais il nous a roulé ce rabbin-là. Il a dit que Dieu... Mais qui m'a dit que Dieu lui a donné cette mission? Mais c'est un faiseur de peur. Mais il raconte n'importe quoi. Il nous a eu celui-là. Et il nous a raconté des balivernes. Ils vont prendre pour un rigolo. Je ne veux pas qu'on me prenne pour un rigolo. Ils vont dire sur les prophètes juifs, c'est des rigolos. Je ne veux pas qu'ils disent que les prophètes juifs, c'est des rigolos. Mais moi, je ne veux pas. Je ne veux pas cette histoire-là. Alors, c'est pour ça qu'il a fui. Ça, c'est l'histoire... Qu'est-ce qu'on apprend de cette histoire? On apprend de cette histoire d'abord que même une personne tellement haut, tellement haute, tellement grande, un prophète, même un prophète à un moment peut être embrouillé. Même le prophète à un moment, il peut croire mieux vaut de ne pas faire la mission que Dieu confie. On a reçu la Torah à Arsinaï. Tous les Juifs, ils ont reçu la Torah à Arsinaï. Mais il y a des moments où un Juif, il peut penser, je ne veux pas faire ma mission. Des fois, des Juifs, ils ont des calculs, 1000 calculs. Je ne veux pas faire à cause de ça, je veux. Des fois, ils veulent ouvrir leur magasin Shabbat parce qu'ils se gagnent mieux. Et Dieu, il a dit, non, il faut fermer. Oui, mais bon, maintenant, je ne ferai pas ce que Dieu demande. Et des fois... D'autres choses, ça peut être le Shabbat, ça peut être la casserole, ça peut être un mariage. Maintenant, je vais me marier avec un goy, une goya, ou je vais vivre avec un juif hors mariage. Mais la Torah nous dit qu'il n'y a pas hors mariage. Oui, bon, Dieu il a dit, mais bon, on va toujours faire exactement ce que Dieu il veut. Mais de temps en temps, je sais mieux qu'est-ce qu'il est mieux pour moi que Dieu. Peut-être je ne sais pas mieux, mais bon, j'ai envie, maintenant je fais à ma tête. Ça y est, c'est, que Dieu dit, bon, laisse-moi faire maintenant ce que moi j'ai envie. Mais ce genre de pensée ne pousse pas seulement dans la tête d'un ignare. Ces idées n'embêtent pas que le simple juif, même des gens bien des fois, même des gens très bien, même le plus grand de la génération Yonah. Il a dit, non, je ne fais pas la mission que Dieu me confie. Je ne peux pas la faire. Au ciel, ils vont parler mal du juif. Je ne veux pas. Je ne peux pas le faire. Il croit qu'il est plus intelligent que Dieu. Il croit qu'il faut refuser la mission de Dieu. Et on essaye de fuir. On essaye de fuir devant Dieu. Eh oui, il y a des gens dans le monde qui fuient. Ils fuient Dieu. Ils veulent faire à leur tête. Qu'est-ce qu'il se passe? Il rentre dans ce bateau et il est fatigué, il rentre dans la cale dormir. Il dort. Quand on fuit de Dieu, on est fatigué. Quand on est en phase avec Dieu, on a plein d'énergie. Il a coupé court avec Dieu. Ça, il a perdu toute son énergie. Ça y est, je vais dormir. Je ne sais pas s'il voulait dormir ou mourir, je ne sais pas. Bon. Il n'avait plus de force. Mais tu crois que tu vas fuir de Dieu comme ça, hein? Peux-tu te tromper, cher Yonah? Ça ne se passe pas comme ça. Dieu, il a pitié sur toi, Yonah. Ça ne se passe pas comme ça. Et le capitaine, il descend. Monsieur, pourquoi vous dormez? Mais réveillez-vous. Mais réveillez-vous. Il y a une tempête. Il y a un danger. Mais réveillez-vous. Appelez votre Dieu. Les gens qui croient qu'on peut fuir Dieu, Dieu leur envoie des fois des tempêtes et des capitaines qui touchent, monsieur, réveillez-vous. Mais réveillez-vous donc, mais pourquoi vous dormez? Mais appelez votre Dieu. Et Yona, il monte. Et on dit, mais qui est le fautif? Et ça tombe sur Yona. C'est vous le fautif? Oui, je sais, c'est moi le fautif. Je le sais très bien, c'est moi le fautif. Mais lui, c'est le plus grand sadique de toute l'assistance. Il aurait pu dire, vous, monsieur capitaine, vous êtes toujours bien, vous. Et toi, marin, et toi? Non, c'est pas eux, c'est toi. Parce que c'est moi, Yona, il sait, c'est moi. C'est moi qui a reçu le message de Dieu. C'est moi qui refuse. Ces pauvres diables, ils connaissent rien. Mais qu'est-ce qu'ils savent? Qu'est-ce que c'est le judaïsme? Mais qu'est-ce qu'ils savent? Qu'est-ce que c'est Dieu? C'est moi, Bécheli, mi, Bécheli, Asar, Gadolazé. C'est pour moi la tempête. Quand lui, il a dit ça, le capitaine, il entend, les marins, ils entendent, le juif, il avoue qu'il a quelque chose à se reprocher. Ça provoque un foudre chez les, la foudre chez ses goyims. Il est prophète, il est juif, il est prophète, il nous raconte une histoire extraordinaire. Celui qui a reçu la Torah, eux, les juifs, ont reçu la Torah, et il reconnaît, tout en étant le meilleur des juifs, il dit qu'il a fait, il ne fait pas sa mission, et c'est pour ça Dieu lui court derrière. Nous, à plus forte raison, on est à côté de la plaque. Et il se réveille. On apprend de cette histoire que quand un juif, il se réveille et il voit que la tempête est pour lui, il provoque que des non-juifs aussi commencent à comprendre. Le juif, il a une force de réveiller le non-juif. Quand lui-même, il reconnaît ses erreurs et on essaye de le faire descendre, il n'y a aucune solution que le jeter hors bord. Ils l'ont jeté hors bord, la tempête définitivement a disparu. Ils ont juré devenir juifs, ils l'ont fait. Ils sont devenus tzadikim. Parce qu'il y a un phénomène. Les juifs, ils étaient au Har Sinaï. Dieu leur a donné une mission. Il leur a donné un pouvoir. C'est quoi un pouvoir? Un pouvoir de communiquer avec les gens. Communiquer, de réveiller les autres aussi. Ou le titre Elion al Kolagoyim, on a lu le parasha par ce Kitavo. Si toi, juif, tu fais la Torah, les mitzvot, Dieu, il te mettra Elion al Kolagoyim, supérieur sur toutes les nations. Vaït al Roche, Veloti el Azanaf, tu seras à la tête de la société. Veloti el Azanaf, tu ne seras pas à la queue de la société. Vetiarak la Mala, Veloti el Mata. Tu seras que en haut et tu seras pas en bas. Le juif, quand il est attaché à Dieu, il est en haut, il est accroché en haut. Il est accroché en haut, il peut lever les gens qui sont en bas. Yona, il a levé ses goyim quand lui, il a fait teshuva. On apprend de cette histoire que des fois, à Kadesh Baruch Hu, il donne des missions difficiles aux juifs. À tel point que des fois les juifs ils veulent fuir et Dieu leur court derrière jusqu'à ils font teshuva et avec ça les autres aussi ils se réveillent. Cette histoire de cette tempête, il y a différentes catégories de tempêtes. Il y a des tempêtes. On a un bateau, il y a du vent. Et le bateau, il danse, et peut-être il va couler, on a peur qu'il va couler. Il y a d'autres sortes de tempêtes dans le monde. Il y a toutes sortes de tempêtes. Il y a des tempêtes personnelles. Il y a des gens personnels, ils sont dans une tempête. Il y a des gens à Chambre qui sont malades, ils sont dans une tempête. On ne sait pas, peut-être ils vont guérir, et peut-être ils ne vont pas guérir. Et ils ont le sentiment, comme il y en a, comme le capitaine, comme les marins sur le bateau. Ça existe. Il y a d'autres sortes de tempêtes. Il y a des tempêtes d'un pays entier. Il y a des situations de guerre. Il y a des situations de menaces de guerre. Il y a des situations où on prêche la guerre, où on prépare la guerre, où on prépare des armes. Des fois, c'est dans un pays, et des fois, c'est beaucoup de pays. Et la question, elle est, cette tempête, il vient pour qui? Mais qui peut donc comprendre cette tempête? Aujourd'hui, il n'y a pas de tempête. Il y a à peine un mois, il y avait une tempête quelque part dans le monde. À Gaza, il y avait une tempête. Je ne sais pas s'il y avait des gens comme Yona qui ont dormi tranquillement. Je ne sais pas, les gens qui étaient à Gaza, vous avez parlé avec eux? Est-ce qu'ils ont bien dormi? Le jour, la nuit, ni jour ni nuit. Quand on peut dormir, boum, 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 mais pas boum, boum. Pas comme le boum là qu'on a entendu. Un peu d'autres boum. Ils n'ont pas dormi pendant 30 jours, ni jour ni nuit. Sauf peut-être ceux qui étaient à 15 mètres sous le truc, cela peut-être, oui. Mais en tout cas, les simples, ça a été une grande tempête. Mais Chas Shalom, ça aurait pu être autrement. Ça aurait pu être autrement. Il y a une tempête depuis longtemps, pas depuis hier. Je ne sais pas si vous étiez en Eretz, vous avez passé une fois une guerre. Est-ce que vous avez passé peut-être la guerre de 6 jours ou de Kippour? Pendant la guerre de Kippour, j'étais en Eretz. C'était une tempête. Moi, je n'étais pas au front. Les gens qui étaient au front, c'était une tempête. Et ça aurait pu finir autrement. Ça aurait pu finir autrement. La tempête s'est calmée, mais ça aurait pu être autrement. La guerre de 6 jours aussi. Ça sortit bien. Ça aurait pu être autrement. Il y a des millions, des dizaines de millions, de je ne sais pas combien de millions de gens qui ont juré de vouloir mettre au feu et au sang. Et ils achètent des armes, ils matent truc. Nous ne savons même pas qu'est-ce qui se passe. Tellement beaucoup de gens, ils ont des projets. Mais cette tempête, c'est pour qui? Mais on cherche qui ici? Qui est le premier qui doit comprendre le message? Quand il y a des gens dans une salle et chacun il parle une autre langue, on connaît quelques Japonais, quelques Chinois, quelques Anglais, quelques Français, quelqu'un Afrique du Sud, il se trouve dans la salle, personne ne comprend la langue de l'autre. Alors il y a un monsieur qui vient, il se met sur le podium, il se met à parler. Il prend une des langues. Dites-moi à qui il parle. À ceux qui comprennent sa langue. Si le type qui parle, il parle en français, il s'adresse aux français. Le chinois, il ne comprend pas un mot. Si le type qui parle, il parle en chinois, donc il s'adresse aux chinois. Mais quand Dieu fait une tempête, il faut le lire. Il faut le saisir. Yona, il a dit, je sais que c'est pour moi. Mais c'est ça le sage. Mais ce qui se passe au Proche-Orient, d'abord, il y en a un qui veut fuir devant Dieu. D'abord, il y en a un qui veut fuir devant Dieu. Mais qui connaît la mission de Dieu? Mais qui connaît le mieux la mission de Dieu? Il y en a d'autres qui croient qu'ils connaissent la mission de Dieu, ils parlent au nom de Dieu. Mais qui connaît la mission de Dieu? Mais ça, c'est nous les Juifs. Est-ce que nous les Juifs, on veut faire la mission que Dieu nous a confiée? Ou est-ce qu'on est en train de fuir notre mission? Si nous fuyons, alors qu'est-ce que Dieu peut faire? Faire encore une tempête? Après, c'est calme. On met les pieds dedans. Ça, c'est calme. Bon, Hachem. Après, la tempête continuera. On va te mettre jusqu'à ici. Tu n'as pas compris. La première guerre mondiale était pour qui? On a dit, c'est à cause de je ne sais pas quoi, les Serbes et les Anglais et les Turcs et les Allemands et tout un balagan. Les gens, ils n'ont pas bien compris le message. Alors, il y a une grande tempête. La deuxième qui dit, voilà, ça, c'est une grande tempête. Ah, c'est parce que ben, tu n'as pas compris. Quoi, nous, les Juifs, nous n'avons pas encore compris. Qu'est-ce que Dieu il a voulu? On n'a pas compris pour qui, qu'on est sourd. Non, il y en a qui n'ont pas compris. Alors maintenant, en Eretz Israël et les guerres de 6 jours, tu n'as pas compris. Et que tous les Arabes sont 1 million ou 2 millions, je ne sais pas combien. Et les journaux, ils parlent mal de nous. Calomnie, calomnie. Non, on n'a pas encore compris cette tempête. Que Dieu, il attend quelque chose. Il veut quelqu'un qui, au fond de la cale, en train de somnoler, en train de dormir, être endormi profondément, et le capitaine, il vient, il dit, mais réveille-toi. Mais toi qui tu es proche de Dieu, toi qui tu es le prophète, tu es le peuple des prophètes, mais toi tu as reçu la mission, toi tu fuis, tu ne veux pas donner, tu ne veux pas appliquer la mission que Dieu te confie. Mais toi tu dors. Le moment que celui qui est proche de Dieu, lui, il entend le message. Ah, les autres aussi. Si nous, les Juifs, on comprend qu'est-ce qu'on veut de nous. On a reçu une Torah, un Sinaï, Eretz Israël, une terre que Dieu nous a offerte. Les Juifs en France, à Marseille, à Paris, partout. Mais qu'est-ce que Dieu... Dieu veut quelque chose de nous. Il veut quelque chose de nous. Il y a des Arabes, Baruch Hashem, j'entends ici à Marseille, il n'y a pas de problème. Baruch Hashem, vous êtes des gentils Juifs, c'est bien, Baruch Hashem. Il y a d'autres endroits où la tempête il souffle un peu plus fort de temps en temps. Et ils crient, vive les Juifs, vive, bon, à leur manière, ils le disent. Vive les Juifs. Des fois, ils le crient, des jeunes et plus. Mais tout ça, tout ce vent qui souffle, il se calme et il souffle, il devient plus fort, moins fort et encore plus fort, moins fort. Il se calme et encore plus fort, encore plus fort. Mais tout ça. Mais réveille-toi, c'est ça que Dieu il veut. Si toi tu réveilles, d'autres aussi vont se réveiller. D'autres aussi vont se réveiller. Yona, il a fait teshuva, le capitaine, il tremblait devant Dieu. Les marins, ils ont tremblé devant Dieu. Tout le monde, il a tremblé. Yona, il est parti parler à Ninvé, il a parlé à des goyim. Mais faites teshuva, mais ils ont fait teshuva. Moi, je vais voir le prochain qui arrive à Marseille, il va se mettre sur la place de la Saint-Charles, comment il s'appelle? Il va se mettre place, comment il s'appelle ici, les places? Canebière. Que tout Marseille fait teshuva, sinon dans 40 jours, Marseille sera détruit. Je ne sais pas, on va essayer de le faire, les gens vont passer. Wahed Maboul, qu'est-ce que raconte-tu là? Mais il y en a, ils n'ont pas pris pour un fou. Ils n'ont pas pris pour un illuminé. Ils ont rendu l'argent volé. Parce que c'était Yona. Parce qu'il était un tzaddik, un yirishamayim. Et il est sorti de cette baleine, il était transformé. Et je fais maintenant la mission. Et Yona qui parle, et bien même les goyim, ils écoutent. Parce que lui, Yona, il a aussi fui Dieu. Il est aussi devenu un baal tshuva. Moi aussi, je dois faire tshuva. Le meilleur des juifs doit faire tshuva. Le meilleur. Oui, lui, il doit faire tshuva. Oui, lui aussi. Moi. Moi. Non, quand même pas moi. La tempête, il est... Oui, je connais je connais des non-juifs, je connais des juifs de basse classe, ils font n'importe quoi. Mais bon, moi... C'est quand même pas... C'est quand même, Dieu pense quand même pas à moi avec cette tempête. Eh ben, il pense oui à toi. Eh ben, oui, pile à toi, il pense. Mais moi, je suis un type bien. Ah, tu es un type bien. Tu es un type bien? Ouais. Comment? Je fais des bonnes choses, non? Oui. Oui, tu fais des bonnes choses. Noaya, alors, qu'est-ce qu'il veut de moi? Ah, tu crois parce que tu fais des bonnes choses? C'est bon. Mais tu fuis quand même devant Dieu. Ah bon, je fuis devant Dieu, oui. Il y a une mission à faire, mon ami. Oui, il y a une mission à faire et tu dois faire cette mission. Dieu, il attend de chacun quelque chose. Chaque juif, là où il se trouve, dans la famille où il se trouve, dans la ville où il se trouve, dans la situation où il se trouve, un homme, une femme, un enfant, un jeune, le père, une mère, ou un cousin, ou une belle-sœur, là où tu te trouves, tu as une mission. Et cette mission, il faut la faire. Ça, c'est ce que Yom Kippour nous dit. Ça, c'est la Haftara que tous les Juifs, depuis toujours, ils lisent le jour de Kippour. Le meilleur des Juifs, il doit faire Teshuvah. Et lui, le premier qui doit faire Teshuvah. Le meilleur, tu te considères comme tzaddik? Eh bien, on s'adresse à toi. Oui, fais Teshuvah. Chacun, il doit faire Teshuvah. Et ta Teshuvah, plus que tu es tzaddik, plus que tu fais Teshuvah, plus tu vas provoquer la pensée de Teshuvah chez des gens qui sont peut-être plus loin que toi, qui ont moins connaissance que toi, qui sont plus éloignés, mais eux aussi vont venir chez toi. Eux aussi vont venir chez Dieu. Les prophètes, ils disent à la fin, tout le monde va reconnaître Dieu. Hier, on a fait dans l'Aftarah, hier, avant-hier. On a fait dans l'Aftarah, c'est encore une des sept Aftarot qu'on lit après Tisha B'Av. Tisha B'Av, la Beth Mikdash était détruite. Les Juifs sont partis en exil. On a passé 2000 années d'exil. Mais les prophètes, ils ont dit des prophéties, des consolations, le Shiva de Nechemta. Et dans cette Haftarah qu'on a fait ce Shabbat, c'était peut-être à la Shoul, sinon vous pouvez la rattraper, en lisant le chapitre 60 de Yeshaya, le prophète, il dit, Vahalchu elecha shechoach bnei ma'anayich, vishtachavu al kapot raglichem kol mena'atzayich. Viendra le moment où ces gens-là, que pendant l'exil des Juifs, pendant que les Juifs ils exilaient, ils étaient d'un pays à l'autre, parce qu'on a perdu Eretz Israël à cause de nos péchés, pendant que nous sommes errés dans les pays, il y a des gens qui nous ont insultés, qui nous ont méprisés, qui nous ont vexés. Le prophète, il dit, Vahalchu shechoach. Ils viendront incliner, bnei me'anayich, les enfants de ceux qui t'ont vexé. Ces gens-là qui nous ont vexés pendant 2000 ans, leurs enfants, ils vont venir incliner. Juifs, je vous demande pardon pour ce que mon père vous a fait. Ve yishtachavu al kapot raglechem kol menatzaich. Ils vont se prosterner. Ils vont embrasser vos plans des pieds et tout ce que Menatzaïr, ce qui t'a insulté. Il y a un type à Paris, il m'a raconté. Il a dit, il marchait dans la rue. Alors il y en a quelqu'un qui a dit, propre juif, propre juif. Alors j'ai dit, voilà, quelle était la réaction? Je suis un heureux. Il m'a insulté. Et après, et un deuxième est venu, il a dit la même chose. Deux, ils m'ont insulté. Alors je lui dis, mais c'est bon ça. C'est bon, pourquoi c'est bon? Mais regarde, viendra le jour que toi, tu seras dans le métro, avec deux valises très lourdes. Un jour, tu seras dans le métro avec deux valises très lourdes. Et c'est difficile à monter les escaliers. Viendra chez toi un jeune homme, incliné, dit, Monsieur Juif, mon père vous a insulté un jour. Je peux vous porter votre valise? Oui, mais le prophète il dit comme ça. L'enfant de ce qui t'a vexé va venir s'incliner. Et viendra un autre. Il va dire, Monsieur, je vous ai vexé, je vous ai dit, propre Juif, comment je peux me pardonner? Laissez-moi, je vais vous porter votre deuxième valise. Mais imaginons que ce Juif, il aura trois valises lourdes. Le troisième, il sera obligé de porter tout seul. T'aurais pas voulu qu'il y ait un troisième qui te dit propre juif, comme ça on va te porter le troisième aussi. Mais ce que le prophète a dit, évidemment, ça va se réaliser. Mais c'est évident. Quoi, on a un doute? Ce que les prophètes juifs ont dit vont se réaliser. Ils vont tous venir. Alors s'il y en a 10 000 à Paris, il y avait 10 000 dans la rue qu'ils ont crié propre juif et la vie pour les juifs, ils ont crié. Mais il y en a 10 000 qui vont, ils vont se pousser pour te porter ta valise. Et pas seulement porter ta valise, ils vont t'aider. Évidemment. Eux, ils dépendent de nous. Le capitaine, les marins, c'était des goyims. Ils ont vu la tempête. Ils se sont posé la question, pourquoi? Mais la réponse, elle se trouve dans la bouche de Yonah. Il faut que Yonah le prononce. Oui, c'est pour moi. Je sais. Tout ce qui se passe, Hachem, il attend de nous que nous, on change. Que nous, on écoute le message. Que nous, on fait notre mission. Nous avons une mission à faire avec notre Torah, nos mitzvot, notre comportement. Et le jour que nous nous améliorons et on comprend ce message, les autres, ils vont venir incliner. Ils vont dire, monsieur, excusez-nous, on n'a pas compris. Mais vous êtes le peuple des prophètes. Vous avez la vérité. On veut vous joindre, on veut vous rejoindre. Soyez notre guide, ils vont nous écouter. Toute la ville de Nine va écouter quand Yonah il a parlé. Et Yonah n'était pas obligé de fuir devant Dieu. Il a fui, mais les tzadikim, quand ils fuient, ils font teshuvah, ils aideront aux autres de faire teshuvah. Et ça, c'est le moussar askel de cette histoire de Yonah. Shana Tova et Chag Sameach.